Donc bonsoir à tous. Bonsoir Sébastien Hutès.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous ce soir afin donc de nous parler de votre roman Monarque, publié chez Albin Michel. Donc, moi, je dois dire que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. C'est mon coup de cœur de la rentrée littéraire. Et donc, je suis très heureuse de converser avec vous ce soir.
Merci.
Donc, Monarque, c'est l'histoire de deux hommes réunis autour d'une même femme. D'un côté, nous avons Augusto Solis, qui, depuis le Mexique, écrit désespérément à sa bien-aimée, Lorelai, qui, elle, est à Paris. Et il lui écrit désespérément, étant donné qu'elle ne répond pas. Un jour arrive une lettre qui n'est pas de Lorelai, mais de Jules Daumier, qui a décidé de répondre à Augusto, étant donné qu'il souhaite l'informer qu'il est désormais le locataire de l'appartement de cette fameuse Lorelai et que cette dernière a disparu sans laisser de traces. S'engage alors une correspondance entre les deux hommes, ainsi qu'une quête de cette femme. Puis, au fil du roman, on quitte Augusto et Jules pour faire la rencontre plus tard de leurs petits-enfants. Il y a d'un côté Daniel, petit-fils de Jules, et Nieves, qui est la petite-fille d'Augusto. Et donc, ces deux-là, la manière de leur grand-père, vont correspondre, cette fois-ci par mail, dans l'espoir de retracer l'histoire de leurs grands-parents, qui est par conséquent leur propre histoire. Et donc, j'aimerais qu'on revienne du coup sur la genèse de ce roman, que vous nous parliez de cette quête, étant donné que nous savons que vous écrivez souvent des polars, et qu'ici, on est dans une quête plutôt qu'une enquête. Et j'aimerais qu'on revienne du coup sur les prémices de ce roman qui a été écrit à quatre mains. Et j'aimerais que vous entendre du coup nous en parler.
Oui, c'est peut-être la chose la plus importante au niveau de la genèse de ce roman, c'est que c'est un roman que j'ai commencé à écrire. Ce n'est pas mon roman, c'est un roman que je partage avec un co-auteur. On a commencé à écrire ensemble avec cet auteur mexicain qui s'appelle Juan Hernández Luna, qui était un grand ami et qui est décédé pendant le cours de l'écriture. C'est un roman qu'on a commencé à écrire ensemble en 2008. Et Juan est décédé en 2010, et j'ai repris, moi, le manuscrit de là où on l'avait laissé en 2012, et puis j'ai écrit pendant les trois années suivantes. Donc, le point de départ du roman, c'est une correspondance quasiment sous forme ludique entre nous, qui a retrouvé à l'intérieur du roman la forme épistolaire, c'est-à-dire à la fois entre les grands-parents. Quand Juan est décédé, on avait terminé la première partie. C'est-à-dire que les échanges épistolaires de cette première partie entre Augusto Solis, qui était le personnage de Juan, et Jules Daumier, qui était mon personnage, avaient pris la forme de mails que l'on s'était envoyés pendant un an et demi, pratiquement. Juan m'envoyant par mail la lettre d'Augusto Solis et moi lui répondant avec la lettre de Jules Daumier. Et puis, nous avions à côté tout un système de commentaires, de paratextes, par téléphone, par messagerie instantanée pour se donner des indications, pour se demander d'insérer tel personnage, telle information, d'ouvrir telle porte qui serait ensuite exploitée par la suite, telle anecdote. Mais la réalisation de cette première partie a été, dans les faits, une réalisation épistolaire. C'est-à-dire que tout s'est passé comme si Juan était véritablement Augusto Solis et que moi, j'étais Jules Daumier. Donc, c'est pour ça que le roman a pris cette forme épistolaire naturellement, qui ensuite s'est propagée, parce que vous commencez en disant que ce sont deux personnages qui sont en quête d'une femme. En réalité, ce sont les quatre personnages, même oui. Ceux de la deuxième partie, enfin de la troisième partie, oui. qui sont en quête de cette femme. Et puis, puisque vous me posez la question de la réalisation, il y a trois parties dans le roman. Il y a une partie intermédiaire qui n'est pas une partie épistolaire, ni en lettres, ni en mail, mais qui est une partie en narration traditionnelle qui fait le tampon entre ces deux époques, entre ces deux parties et ces deux époques, et qui était censée apporter une forme différente et donner une sorte de respiration au lecteur entre ces deux formes épistolaires extrêmement exigeantes, en réalité.
Oui, c'est vrai que cette deuxième partie sert aussi un petit peu à répondre aux interrogations du lecteur quant aux lettres précédemment lues. Et on a du coup cette impression que le roman fonctionne comme un jeu de pistes et que on a un puzzle dont chaque personnage est une pièce. Et c'est vrai qu'il faut dire que c'est un roman qui est quand même polyphonique, que chaque personnage a sa place et que le lecteur court presque après les personnages qui tentent parfois de semer le lecteur sans jamais perdre de vue quand même le lecteur, et que d'un seul coup, soudain, tout fait sens et qu'on arrive à mettre comme ça les pièces les unes dans les autres. Et Daniel, d'ailleurs, le petit-fils de Jules, parle d'un phalanstère littéraire. Et j'aimerais que, du coup, vous nous expliquiez un peu ce système de personnages, comment vous avez travaillé chaque personnage. On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas vraiment de protagonistes, que tous ont vraiment une importance, une place.
Alors, d'abord, la forme épistolaire, ce qu'elle a de formidable, c'est que, de formidable, et c'est à la fois son problème, c'est qu'elle ne permet pas de tout dire. Les personnages se communiquent des informations, mais ils ne peuvent pas tout raconter de leur quotidien. Alors, ils racontent les événements les plus importants, ceux qui font sens dans le cadre de la correspondance. Mais il y a tout un tas d'autres éléments qui ne peuvent pas être dits. Et c'est pour ça que nous avions besoin de cette deuxième partie pour apporter des compléments, pour combler les vides, à la fois les vides historiques, puisque évidemment, les personnages qui parlent de leur intimité et de la quête de cette femme se centrent sur leurs sentiments, ils se centrent sur leur vie quotidienne. Ils ne se centrent pas sur les époques. Or, on est dans une époque, dans les deux pays, est une époque extrêmement agitée, puisqu'on est fin 35, début 36, donc au tout début du Front populaire en France et au Mexique. On est aussi dans la post-révolution, sous le gouvernement de Lázaro Cárdenas, qui est le dernier grand gouvernement de gauche révolutionnaire au Mexique. Donc tous ces événements-là qui amènent jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle se déroule la deuxième partie, en réalité, ils sont juste évoqués comme une sorte de toile de fond dans la première partie. Et il y avait besoin de cette deuxième partie. Et puis, ça laisse aussi la possibilité de créer du mystère à partir du non-dit, cette sorte de quête dont vous parler. Pour ce qui est des personnages, ben, en réalité, quand vous dites qu'il n'y a pas de personnages, pas de protagonistes, le fait est que le véritable protagoniste, c'est un personnage qui n'apparaît quasiment pas dans le roman, c'est Lorelai. Et c'était notre but dès le départ, c'était de reconstituer ce personnage féminin depuis l'extérieur, depuis les points de vue des autres personnages, tout ce qu'ils voyaient, ce qu'ils ressentaient. Mais elle n'apparaît quasiment jamais en tant que personnage en chair et en os dans le roman, et encore moins en tant que locutrice. Elle ne prend quasiment pas la parole. Parce que c'est historiquement une femme qui est une femme exploitée, c'est une femme qui est utilisée par, c'est une actrice allemande qui est utilisée par les nazis comme appât, et donc c'est une femme qui est niée par les hommes autour d'elle, dans sa culture, dans son pays, et cette négation s'incarne dans le roman par cette absence. Et par ailleurs, il y a ces quatre personnages, les deux qui sont amoureux d'elle dans les années 30, et puis ceux qui sont les petits-enfants de ces personnages et qui ont le doute au départ de savoir s'ils sont aussi ses petits-enfants à elle. Eh bien, ces quatre personnages-là, eux, tentent de lui donner une existence. Et cette existence, elle naît au final, c'est ce que découvrent les petits-enfants dans la troisième partie, elle n'est que littéraire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à en faire un personnage littéraire et ce faisant, lui donne une existence qui lui a été niée par les hommes autour d'elle dans l'époque qu'elle a vécue. Donc voilà, tout est construit dans le roman pour faire apparaître petit à petit cette nature de Lorelai, qui au début est un personnage... haut en couleur, dans lequel se projettent des personnages qui voient en elle une femme fatale, une séductrice, une aventurière. Et puis, petit à petit, les autres points de vue voient émerger d'autres parties de sa personnalité, beaucoup plus intimes, sa souffrance, sa difficulté de rapport aux hommes, cette négation de son être et cette sorte d'assomption de sa personnalité. C'est une des raisons du titre du roman, c'est-à-dire la métaphore du papillon qui petit à petit réussit à s'extraire du cocon difficilement, ça prend du temps, d'autres personnages viennent l'aider à s'extraire du cocon. Donc voilà, c'est cette sorte d'assomption. Après, pour ce qui est des autres personnages, c'est vrai qu'il y a énormément de personnages dans le roman. Juan avait énormément d'imagination. une capacité de création de personnages qui était très étonnante. Et ce qui a été formidable, du moins pendant la période qu'on a passé à écrire ensemble, c'est que même si Augusto Solis et Jules Daumier ne se rencontrent pas dans la première partie, donc celle que l'on avait finalisée, par contre, il y a d'autres personnages qui, eux, font le va-et-vient entre le Mexique et la France. Et donc, moi, j'ai récupéré parfois des personnages que Juan avait inventés et qui ont fait le lien entre à la fois deux pays, deux cultures et puis deux écritures. Et ça, c'était absolument formidable. Et puis, quand il s'avérait que je devais terminer tout seul, ces personnages-là, qui n'étaient pas les miens, il a fallu que je les redécouvre, que je me les réapproprie, et puis que je leur donne une personnalité et que je les fasse grandir. Et finalement, des personnages qui n'apparaissent qu'ébauchés dans la première partie du roman, je pense par exemple à ce personnage réel, hein, puisqu'il y a des personnages réels et à la fois des personnages de fiction, Maurice Tillet, le catcheur français, un fameux catcheur français qui aurait été le modèle du personnage de Shrek dans le dessin animé. Ce personnage-là, qui n'était qu'ébauché dans la première partie du roman, eh bien je le récupère dans la deuxième pour en faire un véritable personnage central, construire sa biographie, construire son apport au roman. Donc voilà, le travail de personnage, il a été pour une partie tout à fait personnelle, c'est-à-dire que chacun avait sa chasse gardée, les personnages de son pays, et puis il y en a d'autres qui ont fait des va-et-vient. Hein, Maurice Tillet, le personnage du nain, un certain nombre de personnages.
Oui, c'est vrai qu'on a aussi l'impression, et c'est souvent dit que ces personnages sont des monarques, ils s'attendent, ils se succèdent et s'appellent de génération en génération. Et on comprend du coup au fil du roman le choix du titre. Et c'est vraiment l'impression d'un roman intergénérationnel et du coup, vous le dites d'ailleurs dans les notes, d'un roman qui est devenu petit à petit un roman de la mémoire. Et c'est très intéressant de se demander si... chaque lieu, chaque personnage n'est pas du coup un revenant et si on n'a pas un roman de la survivance étant donné que voilà, il y a cette frontière entre la fiction et le réel qui s'impose. D'ailleurs, les deux petits-enfants d'Augusto et de Jules se demandent à un moment si leurs grands-pères n'ont pas tout inventé. Et c'est très intéressant de se rendre compte que parfois le réel les dépasse au point du coup où ils ne savent plus quoi penser. Et nous, lecteurs, on comprend à l'inverse que le réel, cette fois, lui, a vraiment sa place dans la fiction. Donc on a vraiment comme ça une sorte de labyrinthe entre fiction et réel. Et j'aimerais du coup vous entendre... là-dessus, savoir un petit peu comment vous considérez ce roman que vous dites être un roman de la mémoire et un roman, je pense, de la survivance. Qu'en pensez-vous ?
Alors, c'est un roman de la mémoire à bien des aspects. Alors, ce que je disais de Lorelai tout à l'heure, de ce personnage qui n'a pas d'existence propre et dont la correspondance fait petit à petit naître la personnalité, de la même façon que la recherche des petits-enfants l'a construit en tant qu'être, c'est aussi vrai pour les deux protagonistes de la première partie, puisque à la fin de la deuxième partie, aussi bien Augusto Solis que Jules Daumier disparaissent de l'histoire avec un petit H et avec un grand H. Leurs petits-enfants ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Et la troisième partie consiste à essayer de reconstituer, les retrouver, retrouver leurs traces. On suppose qu'ils sont morts, mais enfin, retrouver leurs traces. Jules Daumier a disparu en 1941 pendant les tout derniers jours de la guerre. En France, hein, sur le front. Et Augusto Solis, lui, a disparu quelque part au large des îles Canaries et aucun des petits-enfants ne savent ce qu'ils sont devenus. Donc la correspondance, c'est aussi, la correspondance de mail, c'est aussi une façon de redécouvrir et de faire réémerger à la surface de l'histoire des personnages qui ont été balayés par le chaos de la période et particulièrement par la guerre. Et donc apparaît cette idée avant la résolution finale dont je ne parlerai pas, mais apparaît cette idée que le seul héritage de ces personnages, au-delà de tout ce qu'ils ont pu faire, au-delà des enfants qu'ils ont pu avoir, des petits-enfants, des familles qu'ils ont pu construire, leur seul et véritable héritage et leur seule preuve d'existence, et donc leur seule existence, c'est l'existence littéraire. C'est-à-dire qu'ils n'existent que dans ce qu'ils ont écrit. Leur corps physique a été balayé par l'histoire, mais l'histoire qu'ils se sont inventée, la personnalité qu'ils se sont inventée à travers leurs lettres, elle survit. Alors cette idée-là, qui était l'idée à partir de laquelle Juan et moi voulions travailler, eh bien, malheureusement, elle retrouve les conditions d'écriture du roman. Puisque, comme je vous le disais, après le décès de Juan, moi, il a fallu que je fasse un travail de mémoire pour essayer de récupérer ses personnages, pour essayer de comprendre ce que lui attendait du roman, parce qu'on en avait parlé. Mais enfin, lui vivait à Mexico, moi à Paris. On s'était croisés pendant cette période d'écriture, je crois, 3 fois, il me semble, hein, pour faire un petit peu le point. Enfin, pas uniquement pour ça, d'ailleurs, mais enfin, pour faire le point. Et puis, ça n'était pas suffisant pour que je sache vraiment ce que Juan attendait du roman, ce qu'il avait imaginé, ce qu'il pensait faire par la suite. Donc moi, il a fallu que je me réapproprie tout ça, que je me réapproprie Juan, que je repense à ce qu'il était, à ce qu'il aurait voulu faire, à ce qu'il aurait voulu dire, hein, et que petit à petit, je le fasse naître dans le roman. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la troisième partie, Juan apparaît comme personnage. De façon fugace, mais enfin, il apparaît comme personnage, à la fois comme une façon d'exorciser le deuil, mais aussi comme une façon de prolonger ce dialogue qui était extérieur au roman, de le prolonger à l'intérieur du roman et de donner une forme au travail de mémoire. Et alors, pour revenir au monarque, hein, vous disiez qu'il y a, une métaphore. En fait, il y a en réalité plusieurs métaphores. Hein. Il y a celle dont je vous parlais, celle de l'éclosion, la métaphore initiatique qui est peut-être la plus évidente et souvent attachée au thème du papillon. Mais le monarque, je ne sais pas si vous voyez les papillons monarques, sont des papillons d'Amérique du Nord qui migrent chaque année du Canada jusqu'au Mexique. Et ils ont la particularité que pour revenir du Mexique au Canada, il faut 3 générations de monarques et que chaque génération vit 2 mois. Mais que la 4e génération, qui est celle qui va faire le trajet inverse du Canada vers le Mexique, cette génération-là vit 6 mois. Donc, pour pouvoir revenir sur le lieu de naissance des arrière-arrière-arrière-grands-parents, la génération multiplie sa longévité par 3. Et ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas encore comment la 4e génération de monarques sait où elle doit se rendre, puisqu'elle retourne toujours au même endroit, hein, ce qu'on appelle des sanctuaires de monarques dans un état du centre du Mexique qui s'appelle le Michoacán. Et on ne sait pas pourquoi, comment ces papillons-là savent à quel endroit ils doivent se rendre. Alors, ils ont des espèces d'horloges circadiennes dans les antennes, mais il y a une hypothèse qui est que ce sont les millions, les milliards de corps de papillons qui se sont reproduits là et qui sont morts ensuite et qui sont mélangés à la terre, qui produisent une sorte de, je ne saurais pas vous dire, de phéromone qui fait que les papillons savent où retourner. Donc dans le monarque, dans la métaphore du monarque, il y a ça, il y a cette chose qui se transmet au-delà des générations, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache comment, qui sautent parfois des générations, qui se retrouvent 2 générations plus tard. C'est pour ça que là, on a les personnages de la première partie et leurs petits-enfants. Les enfants, donc les parents de la 3e génération, sont des personnages intermédiaires qui n'apparaissent que peu, qui n'ont pas d'influence et qui n'ont pas de rôle dans ce travail de mémoire. Donc la métaphore, elle est là. Qu'est-ce qui se transmet? Pourquoi est-ce que ça se transmet? Les constantes à la fois génétique, de comportement, mais aussi idéologique, hein, dans notre idée à nous. C'était pourquoi est-ce que, à travers les générations, on continue à chercher à améliorer la situation humaine. En réalité, c'est pourquoi est-ce que l'idée de révolution se transmet à travers les générations, depuis le Front populaire jusqu'aux générations actuelles.
Je voudrais rebondir sur ce dont vous parliez concernant l'importance de cette entreprise littéraire, de cette expérience littéraire, que ce soit pour Jules et Augusto, mais surtout pour leurs petits-enfants, car on a vraiment l'impression que cet échange, cette correspondance sert leur sert de libération. D'ailleurs, on a une phrase de Daniel dans la troisième partie qui dit, je cite, « Un jour peut-être, moi aussi, je connaîtrai cette rédemption de mes tares. Moi aussi, la fiction m'en libérera. » Donc, on peut se demander aussi, et la question qui se pose, c'est vous, à travers cet ouvrage, de quoi vous libérez-vous ? Quelle est pour vous cette rédemption ? Est-ce qu'il y en a une ? Quel est ce travail qui a été fait ?
Alors, il y a plusieurs dimensions à ce rapport entre les personnages qui s'amènent l'un l'autre à des niveaux supérieurs d'existence. Le premier, c'est la relation qui existe entre, et c'est peut-être la meilleure réponse à votre question d'ailleurs, la relation qui existe entre Jules Daumier, qui est un jeune homme, qui est un commis à l'humanité, qui vit à Ménilmontant, qui doit avoir à peu près 24 ans, en 35, qui n'est jamais sorti de son quartier, de Ménilmontant ou de Belleville, pour distribuer l'humanité à vélo le matin, mais enfin, il n'a jamais quitté Paris en tout cas. Et puis de l'autre côté, il y a ce personnage plus âgé qui est Augusto Solis, qui est dessinateur d'affiches pour le cinéma, qui est un personnage extrêmement cultivé, brillant, qui appartient à une haute société mexicaine, en tout cas à une élite intellectuelle mexicaine. Et il y a entre les deux personnages une sorte de relation de maître à élève qui s'instaure, une relation initiatique. Jules Daumier va petit à petit se mettre à lire. Alors qu'il lisait très peu avant, il lisait un peu de presse, il veut devenir journaliste parce qu'il travaille à l'Humanité, alors il lit un peu de reportage, il lit Albert Londres, mais petit à petit, sous l'influence de Augusto Solis, il va se mettre à lire de la littérature, et à tenter d'améliorer le style de ses lettres, hein, qui au début est chaotique, il écrit mal, il parle mal, il fait des fautes d'orthographe, il fait des fautes de conjugaison, et puis il va essayer de s'améliorer. Cette relation-là, je ne dirais pas que c'est la relation qui existait entre Juan et moi, mais enfin, la différence d'âge entre les deux personnages est à peu près la même différence d'âge qui existait entre nous. Deux mondes extrêmement différents. Moi, quand j'ai connu Juan, il était déjà un auteur confirmé au Mexique, avec 5-6 romans derrière lui. Moi, je commençais à écrire. Donc, il y a quelque chose de ça. Et ce roman, c'est aussi une façon de sceller cette relation entre nous. Et de plusieurs années, j'ai rencontré Juan en 2002, donc 8 années d'amitié, et ce processus-là est en partie scellé par le roman. Alors de là à vouloir exorciser quelque chose, je ne sais pas, les petits-enfants sont des personnages qui n'arrivent pas à trouver leur place et qui sont fascinés par la capacité qu'ont eu, ou en tout cas que disent avoir eu leurs grands-parents dans leurs lettres, de chercher cette place pour eux-mêmes, les combats qu'ils ont menés, la période qu'ils ont vécue, l'agitation politique, la révolution, le Front populaire, la guerre, toute l'aventure de la première partie avec ses histoires d'espions, avec la naissance des grands mouvements populaires, la naissance du catch en France et au Mexique qui est abordé dans le roman. Bon, les petits-enfants qui, eux, vivent dans une époque qu'ils considèrent, l'époque actuelle, qu'ils considèrent comme beaucoup plus grise, comme une époque monotone, dans laquelle il est difficile de trouver sa place, dans laquelle il n'y a pas de place pour l'héroïsme qu'ils voient chez leurs grands-parents, qui par ailleurs sont deux personnages qui sont affublés de tares, dans le sens où Daniel est handicapé, il ne peut pas, il est en chaise roulante, il ne peut pas se déplacer seul, il vit systématiquement enfermé dans son appartement, il est correcteur d'épreuves, c'est-à-dire qu'il il lit énormément, il se considère lui-même quasiment comme un être de papier. Et Nieves, de son côté, qui est une jeune junkie, une fille qui a connu la drogue, un mariage raté, et qui n'arrive pas non plus à trouver sa place. Et tous les deux essaient de se chercher une place, de se chercher une définition à leur identité, à travers la mémoire et à travers ce qu'ils peuvent subodorer de leur propre existence dans les lettres de leurs grands-parents. C'est-à-dire qu'ils essaient de se trouver là une patrie qui ne sont pas des racines matérielles, physiques, mais qui sont des racines culturelles, littéraires, à travers les mots de leurs grands-parents. Et donc, il y a, je crois, une phrase de Daniel qui dit que Sa patrie, ce sont les lettres. Et voilà, je crois que c'est l'idée de cette... Alors oui, alors pour moi, est-ce que j'ai quelque chose à exorciser ? Non, je ne crois pas. Mais enfin, l'idée d'essayer de conquérir des territoires, parce que c'est aussi ça hein, qu'il y a dans les monarques, la migration. Je crois qu'une des phrases finales dit « il faut se sacrer soi-même souverain de monarchie nouvelle ». C'est vrai pour les personnages qui essaient de se trouver une place dans le monde. Et puis c'est vrai aussi pour l'écrivain qui essaie de se construire un territoire.
Je rebondis sur ce que vous disiez concernant la vision que peuvent avoir les petits-enfants de leur grand-père, cette idée qu'ils ont eu une vie totalement débordante. On retrouve l'idée dans le roman, dans la troisième partie, étant donné que Daniel dit en substance que son grand-père n'est pas pour lui un héros de guerre, mais plutôt un héros de récit d'aventure. On a vraiment l'idée que pour les petits-enfants, cette guerre est presque sous-jacente et que ressort plutôt la quête qu'ils ont fait de Lorelai, cette femme fantasme dont on parlait. Elle est comparée à la sirène, elle est comparée aux joueurs de flûte. C'est aussi Blanche-Neige, qui est quand même un fil d'Ariane très important dans le roman. C'est, me semble-t-il, le veau d'or aussi, cette idole. Et on a du coup vraiment cette impression qu'il s'agit là plus d'un récit d'aventure que d'un récit de guerre. Et je trouve ça quand même très, très important. Disons que les deux s'interpénètrent comme ça.
Oui, enfin moi, je n'ai jamais considéré le roman comme un récit de guerre.
Non,
et
tout.
En réalité, les petits-enfants, comme je le disais tout à l'heure, les petits-enfants ne savent pas du tout ce que leurs grands-parents ont fait pendant la guerre. Oui. Puisque la deuxième partie qui raconte cette histoire, qui est une partie, comme je vous disais, qui n'a pas de trace écrite, puisque c'est une partie en troisième personne, ils n'en ont pas d'idée. Ils essaient de reconstituer ça dans la troisième partie. En réalité, pour eux, la correspondance de leurs grands-parents et donc les dernières traces matérielles de leurs grands-parents s'arrêtent au moment où s'arrête la correspondance de la première partie, c'est-à-dire en gros fin 36, début 37, il me semble. Donc pour Daniel, la guerre n'a pas vraiment une importance majeure. C'est le point final, c'est là que son grand-père disparaît. Mais comme il le dit... pour lui, son grand-père n'a pas vraiment d'existence réelle. Peu importe qu'il ait disparu à la guerre, sa seule existence, c'est une existence de papier. Et donc, toutes ses références, tout son processus de construction identitaire se fait par rapport au contenu des lettres.
Oui, il en parle, c'est vrai, comme un héros de papier. C'est aussi un terme qu'il emploie. Et du coup, c'est aussi intéressant de voir... bien que la guerre ne soit pas le sujet du livre, à quel point la mémoire individuelle et la mémoire collective s'interpénètrent et comment l'histoire avec un petit H, enfin les histoires du coup avec un petit H et l'histoire viennent comme ça se croiser, disons. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu du travail qu'il vous a fallu pour faire ces recherches, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de faits historiques. Vous dites dans les notes que vous êtes quelqu'un de méticuleux et que Juan, au contraire, lui, se moquait un peu du fil chronologique des choses. Donc c'est important, du coup, je pense, de revenir sur ce travail de recherche qui a été le vôtre.
Oui, alors effectivement, alors je ne sais pas si je suis méticuleux, mais en tout cas, je fais attention à ces choses-là. Et c'est qu'on a deux méthodes d'écriture tout à fait différentes. Juan, lui, écrivait extrêmement vite et sans se corriger. Et ensuite, plus tard, il reprenait ses textes. Là, il faisait de très, très longues corrections. Mais les premiers jets venaient très vite. Ils étaient foisonnants, plein de fautes d'orthographe, plein d'erreurs. Alors que moi, je fais l'inverse. J'écris lentement. Je reviens tout de suite sur ce que j'écris. Je n'abandonne une phrase que quand j'en suis satisfait. Donc, il arrivait souvent que je reçoive des lettres qui faisaient suite à ma lettre précédente et qui mentionnaient des événements qui se passaient 3 ans après ou deux ans plus tôt, qui était totalement, totalement impossible. Qui, dans l'esprit droit, n'était pas un problème, puisqu'il aurait corrigé ça après, il serait revenu. Mais moi, ça me décontenançait pas mal. Mais alors, pour ce qui est de la recherche historique, en réalité, il n'y a pas vraiment de recherche historique. Hein. C'est très minimal. Je trouve qu'il est de bon ton aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est tiré d'une histoire vraie. J'ai beaucoup fait de recherches pour construire ce roman historique. Non, là, moi, je l'assume à peu près entièrement comme une fiction, avec certains effets de réel et certains liens avec l'histoire. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait une recherche là derrière. Le seul travail de reconstruction historique un peu précis, c'est celui qui touche à la relation entre Walt Disney et le nazisme. Mais bon, là encore, je ne suis pas allé me mettre dans des archives. Hein. J'ai lu quelques livres, j'ai retravaillé, et puis j'ai imaginé un certain nombre de scènes. On n'a pas parlé, ou très peu, de Blanche-Neige, mais effectivement, Blanche-Neige est un des fils conducteurs, parce que Blanche-Neige est tournée en 1937, et Lorelai est un personnage qui est censé avoir servi de modèle. Il y en a eu plusieurs femmes ainsi historiques qui ont servi de modèle au visage de Blanche-Neige pour les dessinateurs de Walt Disney. Et il y avait des liens très étroits entre Walt Disney et le nazisme, pas tant de la part de Disney, mais beaucoup plus des nazis, puisque Goebbels et Hitler étaient de grands fans de Walt Disney. Hitler, ça c'est tout à fait documenté, hein, Hitler avait demandé à Goebbels de lui offrir pour le Noël 37 une douzaine de courts-métrages de Mickey Mouse. Dans son journal, Goebbels raconte la fois où ils voient ensemble pour la première fois Blanche-Neige et la fascination qu'ils en tirent. Hitler lui-même commente plusieurs fois que Blanche-Neige est son film préféré. Et il y a des tas de liens qui se tissent comme ça entre eux. Alors là, j'ai essayé de travailler un petit peu là-dessus, mais en réalité, ça n'est que le prétexte à reconstruire des scènes. Notamment, je reconstruis dans le roman la première... le premier visionnage de Blanche-Neige par Hitler et Goebbels, la fois où ils visionnent ensemble des Silly Symphonies, les premiers courts-métrages. Je reconstruis la rencontre entre Walt Disney et Leni Riefenstahl, qui là est une rencontre historique et qui est très documentée parce que Leni Riefenstahl la raconte largement dans son journal. Donc voilà, là il y a une petite recherche historique, mais en réalité tout ça n'est qu'un prétexte à un roman de fiction, de forte fiction et d'aventure.
Et du coup, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez que l'on perd la trace et la voix de Jules et d'Augusto. À la fin de la première partie, quand s'arrête leur correspondance. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette voix, la voix dans la dune que l'on retrouve dans la troisième partie, qui m'a beaucoup intriguée et qui fait office presque de ritournelle. On a cette petite chanson qui revient entre les mails que s'envoient les deux petits-enfants. Et j'aimerais que vous en parliez davantage. C'est vraiment un moment qui est pour moi très touchant dans le roman et très intriguant.
Alors, c'est pas facile d'en parler sans oui. Révéler la clé du roman et la fin du roman, hein, sans livrer l'identité de cette voix. Bon, c'est pas non plus comme si c'était totalement impossible à imaginer, mais c'est pas facile de le faire sans le révéler. C'est quelque chose, ce sont des chapitres qui, moi, me tiennent énormément à cœur, parce que c'était Juan qui avait eu l'idée, et il m'avait souvent raconté qu'il avait envie d'écrire cette dernière partie, et ce dernier chapitre. Et là, il m'avait dit ce qu'il avait envie d'écrire et comment il avait eu envie de l'écrire. Et il avait même écrit la première de des chapitres de ces voix derrière la dune, qui à ce moment-là ne s'appelait pas comme ça. Et il a fallu, là, pour le coup, moi, pas seulement que je me réapproprie ces personnages, mais surtout que je m'approprie son style et que je continue à donner à cette voix un ton, un style qui soit ceux que Juan avait imaginé. Et surtout, il était très ému à l'idée de raconter cette dernière partie de l'histoire, cette sorte d'analepse en réalité qui structure la troisième partie et qui est très courte dans sa durée. C'est quelques minutes où ce personnage qui raconte derrière la dune voit arriver Nieves et Daniel ensemble dans un cimetière. Et donc là, c'est là que se concrétise toute la réflexion sur la mémoire. C'est là que la plupart des intrigues du roman se trouvent leur dénouement. Et c'est là que se trouve le nœud final, en réalité, à l'intérieur de ce cimetière, sous le sable duquel il y a le passé, il y a des personnages, il y a tout un tas d'autres choses. C'est difficile d'en dire vraiment plus sans raconter la fin du roman.
C'était juste important, je trouve, de mettre l'accent sur ce très beau passage. Et j'aimerais quand même qu'on revienne sur ce personnage de Lorelai, donc, comme vous disiez, qui est le point névralgique de l'œuvre. Car j'aimerais savoir un petit peu comment vous avez construit ce personnage qui est quand même très complexe, on l'a dit. C'est vraiment c'est la femme fantasme, c'est la femme sirène. Et d'ailleurs, Augusto dit à Jules à un moment, toutes les femmes sont des sirènes. Et plus que Lorelai, j'aimerais aussi avoir...
C'est parce que Jules est un homme à femme,
oui.
Pour ça.
Et justement, j'aimerais qu'on parle un peu de la figure féminine dans le roman, la place du personnage de femme, l'écriture d'un personnage de femme, parce que du coup, je trouve ça quand même très, très intéressant. Je trouve que les personnages de femmes sont vraiment très intéressants.
Alors, il y a parce qu'il y a d'autres personnages de femmes. Hein, celui-là est central, mais il y en a d'autres. Il y a un personnage qui, moi, me touche particulièrement, qui me semble important, alors que c'est un personnage assez marginal, qui est la mère de Jules. Donc, Jules vit avec sa mère à Ménilmontant, et sa mère est sourde et muette de naissance. Et donc, Jules communique avec elle grâce à des petits papiers. Et donc, il lui explique sa vie quotidienne, il dialogue dans la vie quotidienne grâce à ses petits papiers. Je me suis inspiré de ça, de ce peintre Gustave Moreau. Je ne sais pas si vous connaissez Gustave Moreau. Gustave Moreau avait une mère qui était aussi sourde et muette, et il lui expliquait ses tableaux sur des petits bouts de papier qu'on a conservés et qui sont aujourd'hui un formidable guide à son œuvre. Donc il y a la mère de Jules, et ces petits billets sont intercalés entre les lettres de la première partie, puisqu'ils sont sans avoir été conservés. Et donc là, il y a tout le quotidien, les difficultés pour trouver de la nourriture, pour que le boucher fasse crédit pour avoir de la viande, les anecdotes tout à fait banales des rapports entre Jules et ses amis, les soirs où il fête trop le début de la République espagnole, ou je ne sais plus quoi, le 14 juillet, où il rentre ivre chez lui. Enfin, tout ce quotidien qui fait le pendant à la grande histoire et à la grande aventure que peut raconter le reste du roman, avec ses déplacements à travers le monde, l'Amérique latine. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus quotidien, beaucoup plus secret. Et puis, il y a du côté mexicain un personnage qui est moins le mien, qui est le personnage d'Evangelia, qui est une prostituée que Jules Daumier recueille chez lui. Il possède un immeuble avec plusieurs bâtiments vides à l'intérieur, plusieurs appartements vides à l'intérieur, et il en offre un à Evangelia. Evangelia va devenir, en l'absence de Augusto Solis, va devenir une sorte de gardienne du temple, une sorte de prêtresse qui va vivre là toute sa vie et qui va conserver la mémoire de ce personnage dont elle était secrètement amoureuse, sans aucune chance, puisqu'elle avait la concurrence de cette Lorelai, qui était un personnage totalement inaccessible, tellement éthéré qu'il ne pouvait pas y avoir de concurrence sentimentale possible avec elle. Ce personnage d'Evangelia qui reste comme le gardien du temple, qui est celle qui assure la transmission de la mémoire avec les petits-enfants. Et puis pour ce qui est de Lorelai, très vite, en réalité, ce n'est pas un personnage si difficile à construire, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un personnage sur lequel chacun des autres personnages projette ses propres désirs. C'est-à-dire que Jules Daumier la voit comme une possibilité d'aventure. Augusto Solis la voit comme la possibilité de l'amour, la femme fatale. Il y en a d'autres, ceux pour qui elle sert d'appât, des industriels, des hommes politiques, la voient vraiment comme la femme fatale. Et puis les petits-enfants la voient comme une mère en puissance ou une grand-mère en puissance, une figure maternelle qu'elle-même ne se sent jamais. Donc chacun projette sur elle des fantasmes, des désirs, des clichés. Mais elle-même, c'est un personnage totalement ductile qui prend la forme, qui épouse la forme qu'on veut bien lui donner. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été formée à ça par les nazis. Elle change de nom, elle change d'apparence, elle se coupe toujours les cheveux de façon différente et ses cheveux sont jamais de la même couleur à chaque fois qu'elle apparaît ou qu'elle est mentionnée dans le roman. Donc voilà, elle a l'habitude de ne pas exister. Elle est entraînée à ne pas être. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle suggère à un moment donné. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué dans ce sens-là. Ce qui est compliqué, c'est de l'appréhender. Mais de la définir, en réalité, non, parce que ce sont les autres personnages qui la définissent.
D'ailleurs, Nieves dira de Lorelai que, vivante ou morte, elle continue de fuir et continue d'errer. Et je trouve ça très juste.
Oui, parce que, alors, il y a des rêves que racontent les personnages dans la première partie qui font écho à des situations. Et donc, Nieves a conscience, étant elle-même une femme qui ne trouve pas sa place dans la société, qui ne trouve pas de repère, elle a la conscience que Lorelai ne l'a jamais trouvée et que c'est son héritage à elle, Nieves, d'essayer de se trouver une place, d'essayer de se définir un être, pour offrir une salvation à ce personnage de Lorelai, qui, elle, n'a pas eu la possibilité ou du moins elle le croit, mais qui n'a pas eu la possibilité d'accéder à l'être, d'accéder à une existence telle qu'elle l'imaginait. Une sorte de désir de rédemption de l'autre dans son propre destin.
Merci beaucoup. Non, mais écoutez, je vous remercie, Sébastien Ruitès, pour
Merci à vous.
Cet échange. Merci.